C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus.
Oh, il n'y a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Le papier n'est pas imprimé, là.
Les jours. Ouais, ce gars, c'est qui marche, moi. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
On y va.
Réveillons-nous, bon. Réveillons-nous.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matinale du 10 mercredi 21 décembre. Et non, c'est pas aujourd'hui l'hiver, c'est la Saint-Pierre Canisius.
Canisius
Canisius, ouais, bon, c'est une Saint-Pierre, je sais pas, qui a un rapport avec les chiens ou je sais pas quoi, je sais pas. Alors l'hiver, c'est que demain. Tant pis, je croyais que c'était toujours le 21, moi, mais il nous faut un chier à chaque fois à changer les dates.
Attends, on est le combien, là?
On est le 21, donc demain...
L'hiver, c'est le 22?
C'est le 22, des fois c'est le 23, le 21. Bon, à partir de demain, les jours rallongent.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ça.
Voilà. Alors, vivement qu'il réouvre le purgatoire, je trouve qu'il y a trop de mouches. Voilà, bienvenue dans cette émission. Bonjour, Audrey.
Bonjour, Manu. Tu me mets la pression parce que la semaine prochaine... Non, pas la semaine prochaine, mais à la rentrée, c'est moi qui reprends l'animation. Il faut que je trouve des titres.
Eh oui.
Ça, c'est compliqué.
J'ai une
parce
feuille,
que...
moi, sur mon bureau, où il y a tous les mois en noir et tous les mois en mouche.
Punaise.
Mais je te la donne pas, la feuille. Je te la donne pas.
À la
voilà.
Fois.
Non, tu veux. Non, allez, on va négocier.
Il va y avoir des escarmouches dans le studio.
Voilà, tu vois, t'en trouves. Pouf. Allez, au sommaire aujourd'hui dans cette émission d'un chou et fadaise. Ah ben, hier, c'était les anonymes. Aujourd'hui, ça sera les célèbres. Dans la chemise à rayures, on va causer réaménagement du fameux quartier Capelle-Guibert à Millau. Et dans la 3A 246, la chronique de la maison de la mémoire, on va parler d'enseignement sur la Vilotte. On va voir comment s'était passée la distribution des tâches de tout le monde. Et maintenant, le CD de la semaine qu'on écoute depuis mardi, depuis hier, et qu'on va réécouter jusqu'à vendredi, puisque vendredi, on reçoit le chanteur de ce fameux groupe, les Vendeurs d'Enclume, le Libre Arbitre.
Me complaire dans ma médiocrité. Je voudrais assumer mes élans délétères et puis me pardonner, ou bien même être fier de n'avoir fait sur terre rien de plus qu'être né. Si seulement je n'avais le cynique pouvoir de tenir ou de choisir où je vais, je me laisserais tomber de toute ma bassesse dans l'éternelle ivresse au doux bras de Morphée. Aux chiottes, le libre arbitre, je veux qu'on me ligote à mon but. Guise de sur moi, je n'ai qu'un chapeau. J'ai jeté mon veto, donné ma langue ça. Je voudrais que ma peau ne m'appartienne pas. J'en fais n'importe quoi quand tu tournes le dos. Mon amour prend la barre, ou alors la tangente. Fuit le naufrage ou plante fermement des amarres. Et fait que je ne sois jamais le maître à bord. Même si je t'implore, ne me laisse aucun choix. Aux chiottes, le libre arbitre, je veux qu'on me ligote à mon pupitre. Le libre arbitre, je veux qu'on me ligote à mon pupitre. La liberté, ça n'est pas fait pour moi. Cela demande beaucoup trop de sagesse. Moi je suis qu'un poisson rouge bouffant jusqu'au trépas. Je suis comme un chien empêtré dans sa laisse. Attache-moi, sœur, bien, comme appelle la sorgue, ou laisse-moi faire, viens me chercher à la morgue. Attache-moi, sœur, bien, comme appelle la sorgue, ou laisse-moi faire, viens me chercher à la morgue. Oh, autant qu'on ne met pas un flingue entre les mains du premier assassin qui se prétend soldat. Je laisse mon destin à distance de moi pour ne répondre pas de ce que je deviens. Alors tout est facile et sur moi la vie coule. Je me fonds dans la foule, indolente et docile, en remerciant le ciel de m'avoir fait brebis, oubliant que la nuit je regrette mes ailes. Aux chiottes, le libre arbitre, je veux qu'on me ligote à mon pupitre. Aux chiottes, le libre arbitre, je veux qu'on me ligote à mon pupitre. La liberté, ça n'est pas fait pour moi, cela demande beaucoup trop de sagesse. Moi je suis qu'un poisson rouge bouffant jusqu'au trépas, je suis comme un chien empêtré dans sa laisse. Attache-moi, serre bien, comme appelle la sorte, ou laisse-moi faire et bien, me chercher à la morgue. Attache-moi, serre bien, comme appelle la sorte, ou laisse-moi faire et bien, me chercher à la morgue. Attache-moi, serre bien, comme appelle la sorte, ou laisse-moi faire et bien, me chercher à la morgue. Attache-moi, serre bien, comme appelle la sorte, ou laisse-moi faire et bien, me chercher à la morgue.
Boum. Voilà, les vendeurs d'enclume, le libre arbitre, c'est Valérian Renaud qu'on aura vendredi dans l'émission pour leur concert de vendredi, de l'autre vendredi 6 janvier à Millau. Et là, c'est parti pour le bruit des feuilles.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah.
J'aime toujours autant ce générique, Manu, où tu dis « chou » sur la petite sonnerie, là, ça me fait toujours beaucoup rire. Alors, aujourd'hui, Courrier International nous propose un dossier sur les transgenres, il ou elle. Les transgenres célèbres ou anonymes, tu vois, il y a un lien avec la revue de presse d'hier. Célèbres ou anonymes, les transsexuels ou transgenres sont de plus en plus nombreux à vivre ouvertement leurs différences. Donc, Courrier International nous propose un tour du monde d'une minorité qui donne de la voix pour être reconnue. Alors transgenre et transsexuel, c'est un petit peu différent. Transgenre, c'est des personnes qui ressentent un décalage entre leur sexe biologique et leur ressenti profond. Et transsexuel, c'est quand t'as franchi le cap de chirurgicalement te faire transformer, quoi. Un homme qui devient une femme ou l'inverse. Alors on a donc différents portraits dans ce courrier international, comme celui d'Anna Grodzka. Elle est députée polonaise, élue tout récemment. Elle est née garçon et elle a attendu 55 ans avant de franchir le cap. On a aussi un petit article sur le... Alors, je ne sais pas s'il faut dire le fils ou la fille. La fille de Sonny and Cher. Vous savez, là, les chanteurs disco, glamour paillettes. Bref, donc, ils ont eu une petite fille. Et puis cette petite fille explique qu'à 13 ou 14 ans, elle a compris qu'elle était attirée par les femmes. Elle s'est donc dit ben, « je suis lesbienne ». Mais non, pas tout à fait. En fait, elle a compris plus tard qu'elle était un homme dans un corps de femme et que donc elle était attirée par les femmes, donc elle était hétérosexuelle. Voilà, c'est compliqué hein, tout ça.
Elle avait un petit robinet ?
Eh ben non, mais non, mais du coup à 42 ans, ça y est, elle a franchi le cap et elle est devenue, elle est passée du prénom Chastity, elle s'appelait Chastity, c'est quoi, pas une blague, et elle est devenue Chaz à 42 ans, donc sous le sexe masculin. Alors on plaisante, mais c'est quand même un parcours du combattant au niveau de l'état civil pour les personnes comme ça, qui rentrent pas dans les cases, parce que c'est vrai que l'état civil, t'es ou homme ou femme, et stop quoi, point barre, il n'y a pas d'autres possibilités. possibilités. Donc quand tu rentres pas dans les cases, c'est un petit peu compliqué. Alors en Belgique et en Suède, Courrier International nous apprend que la personne qui souhaite changer de sexe à l'état civil doit accepter de se faire stériliser. Voilà. Gloops. En France, depuis 2010, il n'est plus la peine de se faire opérer. Donc avant 2010, il fallait se faire opérer pour pouvoir changer d'état civil. Là, depuis 2010, c'est plus nécessaire, mais il faut apporter la preuve qu'on a suivi des traitements médico-chirurgicaux. Alors je ne comprends pas très bien, puisqu'ils disent qu'il ne faut plus se faire opérer, mais qu'il faut que tu attestes que tu aies eu des traitements médico-chirurgicaux. Voilà, ça a l'air... Et alors par contre, j'ai envie de dire quelque chose d'assez intéressant qui se passe en Australie, c'est l'existence d'un troisième sexe qui est reconnu depuis 2008. La mention X pour sexe indéterminé ou non spécifié. Voilà, donc troisième genre.
Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, il y en aura un qui se prendra pour une vache ou une qui se prendra pour un cacatoès. Et du coup, on aura du mal à les classer avec... Bon, il y a encore 25 lettres dans l'alphabet.
Voilà, c'était obligé, obligé. Alors, en Arabie Saoudite, alors là, par contre, c'est un casse-tête juridico-religieux, nous explique le journal Okaz, c'est le nom du journal, parce que, évidemment, c'est les religieux qui s'occupent de toutes ces questions-là. Alors, là-bas, on considère généralement qu'il y a deux cas de figure. Alors, d'un côté, les personnes aux organes mixtes, donc celles qu'on appelle hermaphrodites. Alors, en Arabie Saoudite, ces personnes-là ne sont pas à blâmer. Il faut simplement corriger leur sexe. La nature n'a pas vraiment... C'est la nature, que dis-je, Dieu, n'a pas bien fait les choses. Donc, bon, on ne peut pas les blâmer.
Mais il ne peut pas.
De l'autre côté, tu as des personnes qui changent de sexe de leur plein gré. Alors celles-là, par contre, elles sont condamnables parce qu'elles refusent la volonté divine. Et un troisième cas de figure fait débat, donc, les personnes qui souffrent de l'identité sexuelle. Voilà, donc il crée une troisième catégorie. Et donc là, il y a tout un tas de questions qui se posent. Quel régime matrimonial, quel droit de succession? Et surtout, comment la commission pour la promotion de la vertu et la répression du vice doit-elle les traiter? Faut-il les envoyer dans des écoles de filles ou de garçons? Comment les intégrer au travail? Voilà, en Arabie Saoudite, ça... Mais j'étais quand même étonnée qu'ils se posent la question, cela dit. Avec tous mes a priori, je me suis dit, ben là-bas, ils doivent même pas se poser la question sur le sujet. T'es un homme, t'es une femme, et si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Mais non, ils travaillent quand même sur le sujet. Voilà, donc c'est un gros dossier, il ou elle, enquête sur l'émergence des transgenres, dans Courrier International qui, de cette semaine, c'est-à-dire demain, il y en aura un nouveau. Donc je vous en parlerai plus tard, ou vous allez dans les kiosques. Voilà, donc je continue avec un service de santé publique délabré qui profite à des établissements de soins privés. Alors de quel pays parlons-nous?
De la France.
Eh ben non, toute ressemblance avec un sujet de société est purement fortuit. Non, on parle du Burkina Faso. Voilà, mais c'est vrai que c'est un chouette parallèle. Le Burkina Faso, où les établissements de soins privés essaiment à Ouagadougou notamment. Et donc il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les combines. Donc un article qui détaille comment ça se passe dans les 358 cliniques privées de la capitale. Alors certains pensent que le développement de ces cliniques privées, c'est quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est une prolifération incontrôlée qui met en première position la recherche du profit. Mais non, c'est pas possible. Alors il y a le responsable de la promotion du secteur sanitaire au ministère de la Santé s'interroge. Il se demande si tous ceux qui investissent dans ce secteur sont médecins. Voilà, donc ça montre un petit peu l'étendue des dégâts. Donc dans ces cliniques, les frais de consultation varient entre 5 000 et 15 000 francs CFA, entre 7 et 22 euros. Les examens médicaux sont en moyenne 2 ou 3 fois plus chers. Bref, il paraît qu'il y a des négociations en cours pour harmoniser les tarifs au sein des établissements sanitaires privés.
Nous y allons un grand pas.
Voilà, c'est pour ça que je me permettais de parler de cet article qui fait, je pense, écho chez nous. On reste dans le milieu médical avec le journal Cosette. Cosette, Elsa Gourmand nous en a donné un aperçu avec l'interview de la rédactrice en chef. C'était lundi, si je ne m'abuse. Donc Cosette qui s'intéresse aux blouses des sages-femmes. Qu'elles exercent en libéral ou dans les maternités, les sages-femmes françaises sont en colère. Alors elles sont en colère pourquoi? C'est le cocktail classique, manque de reconnaissance et salaire qui ne suivent pas. Donc on a un portrait de, comment elle s'appelle, Marie-Cécile je crois. Marie-Cécile, oui, qui a toujours rêvé de vivre il y a un siècle et d'être sage-femme au village. Donc on comprend que pour elle, elle dit qu'accoucher n'est pas une maladie, elle précise. Elle boude le milieu hospitalier qui, selon elle, est synonyme de stress, d'hypermédicalisation. Elle opte donc pour le libéral avec un suivi personnalisé des femmes et des futurs papas. Elle tient à préciser qu'elle associe à la démarche. Voilà, Anne-Sophie, il y a des photos avec des gros bidons et des petits bébés dans Cosette. Il y a un encart qui nous explique que la formation des sages-femmes françaises est la plus longue du monde, d'après Cosette, je n'ai pas vérifié. 5 ans de formation et 19 000 sages-femmes en France qui s'estiment plutôt bien formées, mais le salaire ne suit pas. Apparemment, dans la fonction publique, les salaires vont de 1 800 euros à 3 000 euros en fin de carrière et pour des semaines de 60 heures assez fréquemment. Et puis, elles estiment, les sages-femmes, qu'à l'avenir, la charge de travail ne va pas faiblir pour elles, pour deux raisons. Parce que la sécurité sociale, toujours en quête d'économie, est en train de réduire l'hospitalisation postpartum de 4 à 3 jours. Et du coup, les sages-femmes pourraient intervenir à domicile chez les toutes jeunes mamans. Et puis, il y a cette fameuse reconnaissance, on va dire, en termes de valeur du travail qu'elles font. Anne-Sophie, là, non, c'est pas Anne-Sophie, c'est Marie-Cécile, la sage-femme dont il fait le portrait, dit « on nous prend pour des petites mains ». Donc, tout ce rapport de force avec les médecins qui les prennent plutôt pour des sous-fifres, alors que finalement, c'est elles qui le plus souvent mettent au monde les enfants et qui connaissent les femmes. Donc c'est tout ce problème un petit peu difficile à résoudre. Et j'en profite pour vous parler de l'émission Puto de Femno qui, ce mois-ci, parle justement de tout ça, de l'accouchement à domicile, des sages-femmes libérales et de ce que c'est d'être mère, etc. Donc vous pouvez le trouver en podcast sur notre site. Manu, tu confirmes ?
Oui.
Tu confirmes. Sans transition, Sweetgrass. Sweetgrass, qu'est-ce que c'est ? Herbe douce en anglais, alors pas de vapeur envoûtante, mais des petits moutons en transhumance dans le Montana. Des petits moutons et leurs bergers qui sont filmés par Lucien Castin-Taylor et Lisa Brabache. Ça, c'est dans Les Inrocks. Et Les Inrocks, je ne l'ai pas vu à ce film, mais en tout cas, ça donne envie d'aller voir ça d'un peu plus près. Les Inrocks nous disent qu'entre documentaire ethnographique et dernier western, ce film ressemble à pas grand-chose de ce qui se fait dans le cinéma contemporain. Alors l'aventure commence en bas, en hiver, entre prairies neigeuses et bergeries, distribution de fourrage, mise bas, l'ordinaire du travail d'agriculteur. Puis c'est le grand voyage. Hommes, femmes et enfants s'embarquent avec chevaux, chiens, vivres et matériel de campement pour amener leur gigantesque troupeau brouter l'herbe des sommets. C'est vrai qu'ils sont nombreux, il y a une photo. Et du coup, apparemment, les réalisateurs se mettent en position d'observateurs. Ils interviennent le moins possible, pas de commentaires. Ils filment de manière brute et les paysages et la force des visages, la lassitude des corps, la puissance des éléments, les nuits sous les ululements menaçants. L'image hallucinante du troupeau qui emplit totalement la rue principale d'un petit village. Et le journaliste qui fait cette critique nous dit que c'est également un film sur l'épaisseur du temps, sur sa matérialité, le temps nécessaire à l'élevage des ovidés, comme à la fabrication d'un film qui s'est presque fondu dans son sujet. Voilà, donc Sweetgrass qui apparemment est à voir. C'est sorti en 2009, je ne sais pas pourquoi il nous parle de ça aujourd'hui. Il a dû le voir pendant son week-end et il s'est dit, tiens, je vais en faire profiter mes lecteurs. On passe à l'humain. L'UMA, un dossier spécial sur le logement, la spéculation autour de l'immobilier, donc une double page. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui est raconté, mais en tout cas, il y a un point de vue que, ma foi, qui pourrait peut-être être intéressant. Un point de vue, celui de Serge Incerti Formentini. Il est président de la Confédération nationale du logement. Et lui, il dit que bloquer les loyers, ce n'est pas un doux rêve, c'est très facile à mettre en œuvre. Nul besoin pour cela d'adopter une loi ou un règlement, puisque cela s'est fait par simple décret en 2001-2002, en 2000-2001, par Marie-Noël Linnemann, qui était ministre du Logement. Il explique que l'Allemagne, toujours citée en exemple par le gouvernement, réglemente activement les prix en organisant mieux la négociation pour la fixation des loyers. Qu'il y a une autre urgence, c'est instaurer un contrôle au moment de la relocation, c'est-à-dire au changement de locataire. À ce moment-là, les propriétaires en profitent quand ils changent de locataire pour augmenter les loyers. Et on arrive à des prix complètement exorbitants. Puis pour la petite histoire, J'ai une amie qui a visité un appartement et qui le prix était à 400 ou 450 euros, 450 euros. Et la locataire lui dit ça vous convient pas. Et puis l'ami en question lui dit attendez, pour un appartement comme ça, vous seriez prête à payer 3000 francs. Et la propriétaire lui répond mais non, mais je ne le loue pas 3000 francs. Et bien, 450 euros, faites le calcul. Et la propriétaire n'avait pas tilté que 450 euros, c'était 3000 francs. Enfin, il y a un énorme décalage entre euros et francs. Enfin, on en profite, tout se mélange, les loyers augmentent sans aucun contrôle. Et donc, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que demain, au lieu dit, il y a un groupe de réflexion sur les... Alors, je n'ai pas le titre, je fais mal mon boulot, j'aurais dû prendre la gazette du lieu-dit. Mais un groupe citoyen qui aide et accompagne les personnes pour des démarches administratives et notamment sur les questions de logement. Donc, je sais qu'il y a une permanence demain à partir de 18h30 au lieu-dit. Et on va finir avec Midi Libre. Midi Libre qui, aujourd'hui, je sens, va vendre plein d'exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux gros titres. Alors, le premier, c'est les seins en silicone. 30 000 femmes risquent d'être encore opérées parce qu'on leur a fichu des prothèses avec de la silicone industrielle et pas du tout faite pour être mise dans des... Tu remues la tête, Manu. Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, silicone, c'est silicone. Qu'on ne me fasse pas croire qu'il existe de la silicone de la bonne et de la mauvaise.
Oh, mais
il y en a une qui
qualité.
Est peut-être moins bien nettoyée, l'autre, mais je suis désolé, c'est autant toxique l'une que l'autre, il me semble, je dis ça comme ça, mais...
Ben écoute, l'AFSAPS, est-ce qu'il faut faire confiance à l'AFSAPS ? J'en sais rien, mais l'AFSAPS, elle estime que ces prothèses-là ont une qualité qui ne sont pas adaptées.
C'est très étrange, parce que là, dans cette histoire, il y a 30 000 femmes qui vont se faire réopérer, c'est ça ?
Ben, qui devraient se faire réopérer.
Voilà, donc sur l'histoire des seins, ça part, mais comme si c'était fait. Allez, oui, c'est bon, prenez rendez-vous, allez-y, les 30 000. Et puis pour des histoires de médiateurs, des trucs comme ça, ça retourne.
Non, mais 30 000 femmes devraient être opérées, c'est-à-dire qu'il y a 30 000 femmes qui portent ces prothèses-là et qu'il faudrait qu'elles se fassent opérer. Le problème, c'est que...
Mais a priori, ça va être pris en charge.
Ah ben non, enfin, il y en a qui réclament que ce soit pris en charge, mais ça, c'est
d'accord,
un gros débat.
C'est pas fait.
C'est pas fait du tout, quoi. C'est-à-dire que on peut se poser la question de savoir si c'est à la Sécu et donc à la Solidarité Nationale de prendre en charge ce scandale, ou est-ce que c'est au laboratoire. On manque de bol, le laboratoire, il est en liquidation judiciaire depuis plus d'un an. Donc,
comme par hasard.
Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi, parce que qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu laisses ces femmes qui risquent d'être malades comme ça, se débrouiller toutes seules ? Est-ce que voilà, c'est en tout cas ils sont dans ce débat-là. Donc voilà, premier titre de Midi Libre, deuxième titre de Midi Libre qui va faire vendre du papier. Mio avec une escort girl dans l'envers du décor. Voilà. Donc le journaliste, est-ce qu'il y a son nom ? Ah oui, c'est Guillaume Bernardo. Guillaume Bernardo, il a trouvé un site internet bien connu pour héberger des petites annonces de prostituées. Et donc, il en a rencontré dans les rues de Millau. Elles sont sud-américaines, à 50 euros la demi-heure. Elles se prostituent dans les hôtels Miavois quelques jours par semaine. Voilà, il les a rencontrées. Donc, apparemment, ça serait tout de même un réseau. Et pour ne pas se faire choper, elles passeraient 3-4 jours dans une ville. Et puis, hop, elles migreraient ailleurs. Et apparemment... Les campagnes, les départements ruraux sont une cible de choix maintenant pour les réseaux de prostituées. C'est plus la ville qui apparemment est le pays de cocagne pour ce genre d'activité professionnelle, mais plutôt les bleds ruraux comme les nôtres, Millau, Saint-Affrique. Donc peut-être qu'à Saint-Aff, il y a des professionnels du sexe sud-américaines qui font partie de ce réseau et qui sont par là. Alors évidemment, le journaliste est allé voir le patron de l'hôtel et qui lui dit ah ben moi je sais pas ce qui se passe dans les ce qui se passe dans les chambres, j'ai pas envie de savoir. Il explique que cet automne il avait eu quelques soupçons sur des personnes qui étaient venues fréquenter son hôtel qu'il a appelé la BAC, mais bon, apparemment la police a autre chose à faire que s'occuper de ce genre de choses. Voilà, ben, je pense qu'on va s'arrêter là, non?
Ouais. Eh bien, écoute, voilà. Escort girl, bon, voilà, c'est pour pas dire prostituée.
Oui, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Escort girl pour pas dire prostituée. C'est ça.
Va-t-on leur jeter la pierre, le caillou ? Cœur de caillou, rue de la Muette.
Poissons des mers, poissons des rivières, tout tous les oiseaux dans l'atmosphère, cet effet de serre au-dessus de nous. Nous, on s'en fout. Loin du désert, loin des igloos, loin des rizières et loin du bayou, loin des types dans les huttes qui luttent pour rester debout. On s'en fout. Cœur de caillou, cœur de pierre, nous ce qu'on aime, c'est faire nos affaires. Cœur de pierre dans nos cœurs de caillou, nous ce qu'on aime par-dessus tout, c'est nous. Lever nos verres vers l'univers, toute cette beauté autour de nous, foutre ça en l'air pour deux ou trois sous. Paradis sur terre, de l'arrogance, ça c'est pour nous, du silence, comme des secrets bancaires. Nous, on s'en fout. Tant de cailloux sur nos cœurs de pierre, nous ce qu'on aime, c'est faire nos affaires. Tant de pierres dans nos cœurs de cailloux, nous ce qu'on aime par-dessus tout, c'est nous. On s'en fout comme nos chemises des premières, en douce, délicate matière. Celle que nos mères choisissaient pour nous, nos mères pleines de cet amour fou. Tous les oiseaux dans l'atmosphère, les bateaux de l'ignorance, radeau de la misère. Nous, on s'en fout. Cœur de caillou, cœur de pierre, nous ce qu'on aime, c'est faire nos affaires. Cœur de pierre dans nos cœurs de caillou, nous ce qu'on aime par-dessus tout, c'est nous.
Rue de la Muette, cœur de caillou. Alors, rue de la Muette, c'est une rue de Paris, a priori, non ?
Je n'en sais rien, je sais que la Muette, c'est un arrêt ouais, dans le 16e arrondissement, c'est un quartier super chic.
Voilà, voilà.
Mais je ne sais pas si... Oui, si, il doit y avoir rue de la Muette.
Nous sommes en période...
Juste au-dessus de Radio France, c'est...
Ah, bon, voilà, okay. En face, à côté du Trocadéro, ça va pas loin. Parfois, on hérite de cadeaux en cette période de Noël, pas vraiment bien emballés. Et a priori, sur Millau, Monsieur Guy Durand, le maire, a peut-être hérité d'un cadeau de l'ancien. C'était l'affaire Capelle-Guibert.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
Donc beaucoup ont déjà entendu parler du projet Capelle-Guibert à Millau, projet qui est en gestation depuis plusieurs années maintenant. Il a été préparé par l'ancienne municipalité Godefrin, mais les engagements ont été repris par la municipalité actuelle de Guy Durand. Donc de nouveaux aménagements urbains sont en train de voir le jour à Millau. Tout d'abord, il y a le parking et le pôle sup au niveau enseignement. Alors projet de revitalisation de Capelle-Guibert, voyons cela de plus près avec M. Guy Durand, maire de Millau. Nous allons voir les différents aménagements mis en place, mais tout d'abord, est-ce que c'est votre choix à vous personnel de poursuivre ce projet d'aménagement ou est-ce que c'est un peu une obligation de succession en fait ?
Bah écoutez, je voudrais rebondir sur ce que je viens, enfin, ce que vous venez de dire et ce que je viens d'entendre. Ça fait 30 ans à peu près à Millau qu'on parle d'aménager ce quartier. Donc c'est un projet qui a usé, entre guillemets, beaucoup d'équipes municipales. La précédente équipe, celle de Jacques Godfrin, avait un projet qui avait deux caractéristiques. C'était un projet tout commerce. Donc il y avait exclusivement des commerces, il y en avait pour près de 15 000 mètres carrés. Et le choix de l'ancienne équipe avait été de vendre le quartier à un promoteur privé. Donc quand on est arrivé, nous on a considéré il y a 3 ans que premièrement la méthode n'était pas bonne, qu'il fallait garder la maîtrise du foncier. Et surtout on a modifié le contenu du projet et on a diminué par 2 la part du commerce de façon à pouvoir laisser place à d'autres équipements, en particulier un pôle d'enseignement supérieur, une médiathèque, une résidence étudiante. Alors, effectivement, on est dans le même quartier, mais c'est plus du tout le même projet. Le projet Durand ne ressemble à rien au projet Godfrin.
On va commencer par le pôle enseignement supérieur, qui a coûté 6,3 millions d'euros, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Quelles formations seront dispensées dans ce nouveau centre ?
Alors, si vous voulez, le pari qu'on fait à Millau, c'est qu'on peut devenir, Millau et Sainte-Afrique d'ailleurs, un pôle d'enseignement supérieur dans l'Aveyron et en Midi-Pyrénées. Mais pour ça, évidemment, il faut créer les infrastructures qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir des formations et offrir aux étudiants qui choisiront Millau une vie étudiante, comme on peut la demander quand on a cette âge-là. Donc dans ce pôle d'enseignement supérieur, on aura une capacité d'accueil de 600 étudiants. Alors en gros, les 2/3 seront occupés par l'école d'infirmières, c'est-à-dire l'Institut de formation en soins infirmiers, et l'autre partie sera occupée par une délocalisation de l'IUT de Rodez, avec les formations qui vont suivre. C'est-à-dire, on donne au Millavois et au Sud-Aveyronnais la possibilité de poursuivre des études supérieures jusqu'à la licence, sans être obligé de partir à l'autre bout de la planète.
Donc qu'est-ce que ça amène, ça, à la ville de Millau, que les étudiants restent au lieu de partir à Montpellier ou Toulouse ?
Alors, c'est pas obligé d'ailleurs que ce soit des étudiants de Millau qui restent à Millau, ça peut être des étudiants qui viennent d'ailleurs étudier à Millau, parce qu'ils sont intéressés par la qualité de vie, la possibilité de faire du sport de façon assez simple, et puis probablement un coût moindre. Mais le gros avantage pour Millau, c'est le rajeunissement. Vous savez, Millau, c'est comme Sainte-Afrique, d'où vous émettez. C'est une ville où la population âgée est importante. Et on est heureux d'avoir toutes ces personnes âgées. Mais je pense qu'il faut rééquilibrer aussi un peu les choses et apporter un peu de jeunesse à la ville. Et la présence de plusieurs centaines d'étudiants dans les rues de Millau va donner ce plus, ces couleurs. Et en plus, on sait bien que quand il y a une population étudiante, il y a de la vie, y compris la nuit.
Ensuite, il y a le projet qui est en construction aussi d'un parking de 314 places.
Voilà, donc actuellement, c'est les deux équipements qui sont en cours. Le pôle d'enseignement supérieur, on est arrivé au niveau du rez-de-chaussée à peu près. Et à côté, donc, se construit le parking souterrain qui fera effectivement 321 places, qui sera sur un seul niveau. Et là aussi, les travaux vont bon train. Et c'est sur ce parking que sera établie une dalle. Et c'est sur cette dalle que sera ensuite allée les commerces et la médiathèque.
C'est construit par Eiffage Construction Midi-Pyrénées, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a fait un concours d'architectes, puis un concours d'entreprise. Et c'est effectivement la Eiffage qui a obtenu le concours. Mais derrière Eiffage, il y a tous les sous-traitants locaux. C'est-à-dire on a veillé à ce que les entreprises locales puissent bénéficier de ce chantier.
Ça aurait pas pu passer autrement ?
Ben si, parce que, vous savez, le code des marchés publics fait qu'il faut prendre le moins disant, comme on dit en droit, c'est-à-dire celui qui propose la prestation la moins chère. Et le risque, évidemment, c'est de favoriser des grands groupes qui font pas ou peu travailler les entreprises locales. Donc nous, on avait mis comme contrainte que les sous-traitants devaient être locaux, et c'est le cas. Donc ça représente actuellement pour les entreprises de bâtiments de Millau, du Sud-Aveyron et plus largement de l'Aveyron, un chantier significatif.
Donc je lis là dans un article que j'ai sous les yeux que c'est un chantier à faible impact environnemental, donc un chantier propre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors ça, c'est un chantier propre. C'est un chantier, par exemple, sur lequel les déchets sont systématiquement ramassés tous les jours, triés, enlevés. Donc c'est, vous savez, on avait l'habitude, quand on participait à un chantier ou qu'on regardait un chantier, de trouver que c'était le bazar. Là, c'est très, très organisé. Les matériaux utilisés sont des matériaux recyclables, écologiques. Et ensuite, les déchets disparaissent tous les jours après un tri sélectif très précis.
Et ces 321 places, est-ce qu'elles seront payantes dans ce parking souterrain?
Les 321 places seront payantes, bien sûr, mais avec des possibilités d'abonnement pour les habitants du cœur de ville, avec également des possibilités d'abonnement offertes par les commerces pour les clients qui fréquenteront les commerces du dessus.
Ensuite, donc, dans les projets à venir et la construction d'une médiathèque.
Voilà, donc la ville de Millau a décidé de déménager sa bibliothèque municipale. Actuellement, nous avons une bibliothèque très performante, mais qui n'est qu'une bibliothèque dans le CREA, le centre de rencontres, d'échanges et d'animation, qui est sur le boulevard Sadi Carnot. Et donc là, le projet, c'est de déménager cette bibliothèque sur le quartier Capelle et de la transformer en médiathèque en doublant les surfaces. Donc on va être en mesure d'offrir aux habitants de Millau et aux futurs étudiants un équipement livres, audio, CD qui sera tout à fait complet.
Ensuite, vous avez la création d'une résidence de service pour accueillir les étudiants et aussi les touristes.
Voilà, donc ça c'est un projet qui est porté par un privé. Ça consiste à réaliser juste à côté du pôle d'enseignement supérieur et donc dans le quartier Capelle, une résidence qu'on appelle service. En fait, ce sont 110 petits appartements qui pourront être loués pendant la période universitaire aux étudiants et qui ensuite, en période estivale, pourront servir d'accueil pour les touristes. Donc ça c'est un projet qu'on a favorisé, mais pour lequel le risque est pris par un partenaire privé.
Qui est ?
Alors, il s'appelle le groupe Gagnon. C'est un groupe du Var.
Et enfin, dernier point, et celui qui coûte le plus, c'est la création d'un espace commercial de 8800 m² qui coûte 50 millions d'euros ou 80 millions d'euros maintenant ?
Non, ça va probablement tourner autour de 55 millions d'euros, mais ça c'est là aussi, c'est pas la ville de Millau qui assume la charge financière de cette opération, c'est une société, un promoteur privé, qui s'appelle la SAS La Moitié, donc c'est un peu curieux comme nom, qui est le promoteur qui avait déjà signé contractuellement avec l'ancienne équipe, qu'on a donc dû garder, mais avec qui on a évolué, on a fait évoluer le projet, on a réduit de presque moitié les surfaces commerciales. Et on a aujourd'hui un dispositif qui va compléter le commerce du centre-ville et pas le concurrencer.
Vous avez déjà une zone industrielle assez grande en haut avec le géant, Leader Price. Est-ce que c'est indispensable un commerce comme ça, enfin une
Ah, moi
une
je
zone...
crois que c'est. D'abord, il y a encore, malgré tous ces commerces, une forte évasion commerciale, qu'on estime à une quarantaine de millions d'euros chaque année. Ça veut dire que beaucoup de Millavois et des Saint-Africains aussi partent faire leurs courses à Rodez, Albi,
Montpellier
pour aller rechercher ce qu'ils ne trouvent pas ici. Et ce qu'ils ne trouvent pas ici, c'est souvent l'habillement des enfants, l'habillement des personnes en général. Ils ne trouvent pas non plus des commerces culturels. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'installer, non pas en périphérie, ce qui était un peu la mode il y a encore 5-10 ans, mais dans le cœur de ville.
À Millau comme à Sainte-Afrique, depuis 2008, les commerces de centre-ville souffrent de la crise. Est-ce que vous ne pensez pas que cette zone commerciale, elle va encore être une concurrence pour les commerçants de proximité?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut accompagner cette installation et on a donc décidé de démarrer dans le cœur de ville des opérations pour aider les commerces, puisque vous savez, aujourd'hui, les communes ont ce qu'on appelle un droit de préemption, c'est-à-dire qu'elles peuvent acheter des fonds de commerce qui se libèrent. Donc j'ai bien l'intention l'année prochaine de lancer cette opération, c'est-à-dire si un commerce de centre-ville se libère et ne trouve pas preneur, la commune peut l'acquérir et le proposer à un jeune à des conditions financières tout à fait favorables. Donc on va essayer de faire les deux à la fois, c'est-à-dire d'une part amener au cœur de ville les marques et les commerces qui manquent, et d'autre part donner un coup de main pour que dans le cœur de ville aussi, les commerces déjà existants ne souffrent pas trop.
D'accord, ça vous paraît compatible ?
Ah, je crois que c'est plus que compatible, c'est nécessaire. Si on n'apporte pas un coup de fouet commercial par un projet un peu innovant dans le cœur de ville, encore une fois, on prend de gros risques.
D'accord, parce que les gens continueraient de partir ailleurs, c'est ça?
Mais oui, ils vont continuer de plus en plus à partir ailleurs. On annonce un village des marques à la Cavalerie. Il s'est ouvert au Odysseum à Montpellier. Il y a un gros centre commercial qui a également ouvert à Béziers. Aujourd'hui, toutes ces destinations sont proches.
Donc, en fait, sur tous ces aménagements, le pôle d'enseignement supérieur, la médiathèque, les résidences, donc les logements, et les centres commerciaux, et le parking, combien la commune ou l'argent public, combien est investi dans ce projet ?
Écoutez, nous, on estime qu'au final, on aura un projet complet qui tournera autour de 80 à 85 millions d'euros, et la part financée directement par la commune ne devrait pas dépasser 5,5 millions.
D'accord. Le reste, les 80, 85, c'est privé ?
Alors, le reste, c'est soit des subventions public, apporté par la région, par exemple pour les causes infirmières, c'est la région qui finance, apportée par la communauté de communes éventuellement, le département, puis ensuite effectivement les investisseurs privés qu'on a réussi à intéresser à ce projet. C'est probablement le plus gros projet que la ville de Millau a pu initier depuis ces 30 dernières années.
Et voilà, on en sait un peu plus sur la Capelle Guibert. On va quitter Millau, on va aller au soleil. Au soleil, ouais, pas forcément, hein, il fait très chaud souvent. Le Sud Niger, le Nord Mali, les Touaregs, avec une compile, on va dire, compile ou...
compile, c'est
ouais,
bien.
Compile, allez. Ça va mmh. Compile de chanteurs et de musiciens du désert. Quelle souffle la reine Touareg. Anan de la compile Kel Assouf, la reine Touareg, on va la chanter un petit peu parce qu'on ne va pas arriver à compléter, à finir l'émission, surtout qu'on a encore la chronique de la maison de la mémoire 3A246 qu'on envoie tout de suite.
3A246 Chronique de la maison de la mémoire.
Parler des écoles, mais des écoles de hameaux, en se servant principalement d'une enquête qui a été faite en 1881. Alors pour un peu revenir en arrière et resituer le contexte, en fait à la Révolution, tout l'enseignement a été changé. Alors on avait de grands principes et du coup on a fait des lois, entre autres ben, pour essayer de rendre la scolarisation obligatoire, on prévoyait une école pour 1000 habitants et surtout des instituteurs qui étaient salariés finalement. Et l'enseignement gratuit. Du coup, à Sainte-Afrique, on a retrouvé une lettre qui prévoyait que pour la ville de Sainte-Afrique, il y aurait 8 instituteurs. Donc à chaque fois, c'est moitié homme, moitié femme, dont 2 qui seraient à Tiergue. Pour La Peyre, Verzol et Vandelove, ainsi que Saint-Étienne de Nocoul, ils étaient 2. Et Calmel, Sélevialla et Bournac, ils devaient être 2 aussi. Mais en fait, comme un peu partout dans l'ensemble de la France, ça n'a pas fonctionné, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Ce qui fait que toutes ces écoles n'ont pas été créées. Mais petit à petit, on va les voir apparaître au cours du 19e siècle. Et vers 1880, donc au moment de l'enquête, on trouve 9 écoles primaires, sans compter celles de la ville. Donc il y en avait une à Bournac, une à Boussac, une à Crassous, une au Cambon, une à Savignac, une à Saint-Étienne-de-Nocoul, une à Tiergue, une à Vaillosy et une à Vandelove. Beaucoup ont été créées vers 1850. Et la plupart ont été fermés à partir de après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc on voit vraiment que, en fait, on le soupçonne pas forcément, mais il y avait vraiment des écoles partout. Et avec beaucoup d'élèves, quand on voit l'enquête, ils étaient vraiment nombreux. Parce que, entre autres, au XIXe siècle, les seules conditions matérielles pour ouvrir une école, on retrouve des lettres qui en parlent, c'est simplement d'avoir une salle de classe, deux pièces pour loger l'instituteur, et une autre dans laquelle on stockera le bois de chauffage. Et pour ce qui est du matériel ou du mobilier, il suffit d'avoir des tables, des bancs, une estrade, un bureau, un tableau, une seule méthode de lecture pour tout le monde, pour la classe, et un crucifix. Parce que encore la laïcité n'était pas passée par là. Mais on va voir avec l'enquête de 1880 que finalement, ce n'était pas tout à fait appliqué. Mais c'était général à l'ensemble de la France, où en 80, on trouve des écoles primaires communales un peu partout, mais avec des moyens assez insuffisants, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on trouve dans les enquêtes des endroits où il y a des tables mais pas des bancs, des fois des bancs mais pas des tables, des fois quasiment rien. Il y en a même pas mal qui n'ont ni poêle ni cheminée. Donc du coup, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, est-ce que l'hiver ils arrêtaient ou pas. C'est assez surprenant. Pareil, il n'y a pas de... Très rarement, il y a des cours ou des jardins. Il n'y a jamais ce qu'ils appellent de lieu d'aisance, dans aucune. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu surpris, plutôt agréablement, on va dire, c'est que sur les 9 instituteurs, il y a 8 femmes. On ne s'attendait pas forcément à cette proportion-là. Et donc ça fait plus de... ça fait 90%, quoi. Alors qu'en fait, au même moment, il y a une enquête en Aveyron où les institutrices représentent à peine 25% des enseignants. De même, la moyenne des écoles par commune, elle est que de 5 dans le département, alors que, comme on l'a dit, à Sainte-Afrique, il y en avait 9. Donc on n'était pas si mal lotis. Ensuite, au même moment que cette enquête, les instituteurs devaient aussi justifier des absences, et donc du nombre d'absences et puis les motifs. Et alors là, on trouve des choses, donc certaines auxquelles on pouvait s'attendre, comme par exemple l'aide aux travaux des champs, aux travaux agricoles. Mais quand on regarde l'âge des enfants, on trouve plein de bergers ou de bergères qui ont 8 ans, 9 ans, d'autres qui vont faire les vendanges, certains qui restent à la maison pour soit garder les parents, soit garder leurs frères et sœurs. Et après, on trouve d'autres choses un peu plus surprenantes, notamment un élève qui n'a pas pu venir parce qu'il a porté des planches. Alors, on n'a pas bien compris. D'autres qui devaient être vraiment très pauvres et donc qui étaient des vagabonds, donc on ne les retrouvait pas forcément. D'autres qui étaient, et là on voit vraiment encore le poids de la religion, qui n'étaient pas venus en classe parce qu'ils faisaient leur confirmation ou bien ils se préparaient à la communion, etc. Les lois donc scolaires pour favoriser la scolarisation des enfants, elles apparaissent les premières vers 1850, on va dire, mais elles mettent très longtemps à être appliquées. Et c'est pareil pour les lois du travail des enfants, qui arrivent à la même époque, mais en fait on ne se donnait jamais les moyens, ni de contrôle, ni de répression. On le voit notamment, il y a une enquête auprès des industriels dans la région, et on voit encore à la même période vraiment des jeunes enfants qui travaillaient, mais bon, qui travaillaient aussi pour le... c'est pas... faut pas voir que le côté noir des choses, c'est aussi pour le bien-être de la famille, essayer de rapporter un peu plus d'argent à la famille.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Et c'est la fin du purgatoire et des mouches par ordre des apparitions. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben, la compile Kella Souf, dans les musiques du désert, rue de la Muette, cœur de caillou, ainsi que vendeur d'enclume qu'on retrouvera vendredi. Et nous aussi, on se retrouve vendredi. Merci Chloé, merci Audrey.
Merci et, Manu.
Adi Bendele.